Bonjour et bienvenue sur BAC FM 106.1. Vous écoutez La Fabrique Citoyenne et vous êtes en compagnie de Mathéo
et de Lily,
élèves de terminale au lycée Raoul Folleraud. À l'occasion de la Journée nationale de la laïcité, le 9 décembre, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Veil, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du droit des immigrés. Il s'est intéressé à la notion de laïcité, notamment dans son ouvrage intitulé « De la laïcité en France », et c'est pour cela que nous allons profiter de sa présence afin de répondre à différentes questions sur la laïcité.
Bonjour Monsieur Veil.
Bonjour.
Pour commencer cette interview, pouvez-vous nous définir simplement la notion de laïcité afin que cela soit plus clair pour nos auditeurs ?
Alors, la laïcité, c'est le droit de croire, de ne pas croire, de manifester sa foi ou de ne pas la manifester si la loi le permet, sans pression. Si quelqu'un fait pression sur vous pour vous contraindre à marquer votre foi si vous ne le voulez pas, ou vous en empêcher si vous le voulez, cette personne peut aller en prison. Et de même, si vous, vous faites pression sur quelqu'un, eh ben vous pouvez aller en prison. Voilà. C'est une liberté sans pression.
Est-ce que selon vous, il y aurait un pays appliquant un modèle laïque idéal? Et sinon, que serait un modèle laïque idéal à vos yeux et serait-il applicable à l'échelle française?
Eh bien, c'est une très bonne question parce que je pense que le modèle idéal, c'est celui de la loi de 1905, ce qui est la loi française, mais encore faudrait-il que le gouvernement, les pouvoirs publics, les professeurs, tout le monde le connaisse, et c'est pas le cas, c'est ce que je montre dans mon livre, c'est qu'ils avaient oublié toute une partie de la loi, parce que c'est très rare d'avoir un pays où vous respectez à égalité tous les croyants, quelle que soit leur foi, et tous les non-croyants, quel que soit leur degré de non-croyance, depuis soit ils sont totalement athées, soit ils doutent. Et le système de la laïcité qui fait que pour assurer cette liberté de croire ou de ne pas croire, par exemple, vos professeurs, s'ils n'ont pas de signe religieux, même s'ils ou elles sont croyants, c'est pour pas faire pression sur vous. Et donc tous les fonctionnaires d'État, l'État ne marque pas d'opinion sur la religion. L'État est neutre, il est a-religieux, et c'est un régime, donc, qui assure la complète liberté de tous les citoyens. Et encore faudrait-il le connaître, et toutes ces dispositions qui punissent les pressions étaient jusqu'à présent inconnues ou oubliées, et c'est ce que je rappelle dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer.
Et donc, pouvez-vous nous expliquer la différence entre la laïcité ouverte et la laïcité fermée, et que pensez-vous de ces concepts ?
Eh bien, la laïcité, je dirais, qui se déclare ouverte, c'est une laïcité qui se déclare ouverte à des nouvelles religions comme les musulmans ou les bouddhistes d'autres qui se disent la laïcité tout court, ils disent oui c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'islamisme radical, aux attentats, etc. Donc les premiers disent il faut pas toucher à la loi, il faut pas faire de discrimination, les autres disent mais il faut des instruments pour punir les radicaux, et ils connaissaient pas ces deux camps, ces dispositions pénales qui permettent de punir, par exemple, quelqu'un qui fait pression sur vous, ou qui permettent de punir des incitations d'ecclésiastiques, de religieux qui incitent à la violence ou au soulèvement de certains citoyens contre d'autres. Et je dirais que cette connaissance peut permettre de dépasser cette opposition, puisque c'est à la fois le respect de la loi, et je raconte que ces dispositions ont été utilisées entre 1906 et 1914 contre des catholiques, des ecclésiastiques catholiques qui menaçaient des enfants, des lycéens ou des lycéennes ou des collégiens de les punir, de les priver de première communion s'ils ne étudiaient dans certains livres d'histoire de l'école. Et donc ils ont été punis par les tribunaux pour ça, pour faire des pressions, vous voyez. Bien, ces dispositions-là, elles avaient été oubliées. Et donc, elles permettent de dire, c'est le respect de la loi, il n'y a pas de discrimination, c'est la même loi qui s'appliquait déjà aux chrétiens, qui s'applique aujourd'hui à des musulmans. Et d'autre part, c'est les dispositions qui permettent de punir des musulmans radicalisés, et donc, elles sont là, c'est pas la peine d'aller chercher des nouvelles dispositions législatives. Donc ça permet de les réconcilier, cette meilleure connaissance de la loi.
D'accord. Le gouvernement affirme que la laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Qu'en pensez-vous de cette citation ?
C'est un peu un slogan. Je veux dire, la liberté d'avoir une opinion, ça n'est pas la laïcité. La laïcité, c'est l'organisation du respect de toutes les options religieuses. Et la liberté d'avoir une opinion, c'est garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a existé avant le régime de laïcité, puisque c'est 1789, et que le régime de laïcité, il s'installe définitivement en France avec la loi 1905 que nous célébrons le 9 décembre.
Et bah justement, à propos de cette loi, pensez-vous que la loi du 9 décembre 1905 est toujours suffisante pour assurer la liberté de conscience dans notre pays et permettre aux différents cultes de cohabiter pacifiquement?
Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Elle est parfaite, cette loi. Elle est remarquable. Elle a été extrêmement bien travaillée. Elle permet, si vous êtes, par exemple, une bouddhiste ou musulman de n'importe quel groupe, chiite, sunnite, ahmadi ou d'autres sensibilités de l'islam, de vivre votre foi en toute liberté, à condition que vous ne sortiez pas de la dimension religieuse de la foi. Cela garantit cette liberté d'exercice des cultes. C'est pas la coexistence, c'est le respect de chaque option individuelle et le partage de la citoyenneté. Parce que le lien avec la citoyenneté, il est le suivant. Vous admettrez que la laïcité, c'est le droit aussi de ne pas croire. Mais si vous êtes élevé dans la religion, vous vivez dans un milieu qui vous donne une fraternité, une sociabilité, vous êtes tout d'un coup vous doutez, il faut que vous trouviez votre place dans la République. Et il faut que les programmes scolaires expliquent la diversité des enfants, de vos camarades, de toutes les personnes qui sont dans les classes aujourd'hui en France. Eh ben, cette diversité, elle vient de l'histoire coloniale de la France, de la colonisation, de la décolonisation, des politiques d'immigration. C'est ça qu'il faut enseigner en priorité pour que chacun comprenne et ait sa place dans la République et ait le libre choix dont je vous expliquais au début, que c'était ça, la laïcité, le droit de croire, mais aussi de ne pas croire.
D'accord. Et du coup, nous savons que le gouvernement met en place plusieurs instances afin d'appliquer cette laïcité. Cependant, l'Observatoire de la laïcité a été dissous cette année. Donc, oui. On aimerait savoir ce que vous en pensez, si cet observatoire n'était-il pas utile et pourquoi a-t-il été supprimé?
Écoutez, c'est une option de politique gouvernementale. Ça fait quand même beaucoup d'années que la formation à la laïcité aurait dû être une priorité. Rien qu'après les attentats de 2015, il aurait peut-être été nécessaire d'agir. Voilà, je ne suis pas sûr que les options qui ont été choisies par le gouvernement soient les bonnes. Je n'en sais rien. Ce que je veux dire, la chose suivante, c'est que la loi de 1905, elle est la propriété de tous les citoyens et de tous les lycéens. C'est-à-dire qu'il suffit que vous lisiez l'article 1 de la loi de 1905 et déjà vous avez, et que vous le commentiez et que vous le compreniez, et c'est votre propriété. C'est à vous qu'elle appartient, la loi de 1905. Vous n'avez pas besoin du gouvernement pour vous former à cela, vous devez, mon livre peut vous y aider, mais je veux dire, il faut que vous preniez en main la laïcité, elle est à vous.
Du coup, vous parlez que la laïcité doit être enseignée aux élèves, et donc dans la prolongation de la loi sur le séparatisme, et suite à l'attentat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, l'éducation nationale veut former les enseignants à la laïcité. Et donc aujourd'hui, dans une présentation du plan de formation des enseignants à la laïcité, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a déclaré en substance que si les enseignants n'adhéraient pas aux valeurs de la République et ne les transmettaient pas, ils devaient sortir de ce métier. J'imagine que vous devez vous réjouir de ce plan de formation des enseignants.
Écoutez, je suis tout à fait... ce plan de formation, il s'est révélé tout à fait nécessaire quand M. le ministre de l'Éducation nationale, après avoir annoncé, après l'assassinat de M. Paty, l'horrible assassinat de M. Paty, qu'il y aurait 2 heures de débat à la rentrée scolaire des vacances de la Toussaint sur la liberté d'expression, qui est différente, qui est un... Je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Paty, il expliquait ce que c'était que la liberté d'expression, pas la laïcité. Bien, le ministre a annulé ces 2 heures de débat parce qu'il n'avait pas fourni aux enseignants les instruments qui leur permettaient d'animer avec vous ces débats. Donc que maintenant ils fassent une formation, c'est formidable. Moi, j'attends de voir le contenu de ces formations. Formation, c'est très bien, mais il faut que ce soit pas une déformation. Vous voyez, donc attendons de voir les contenus de ces formations et les effets.
D'accord. Et du coup, pourquoi l'assassinat de Samuel Paty a-t-il suscité, selon vous, autant de débats au sujet de la laïcité ?
Eh bien, d'abord, ça a suscité plutôt des débats sur la liberté d'expression, sur est-ce qu'on a le droit de caricaturer, de critiquer les religions. Ça, c'est pas la laïcité, c'est la liberté d'expression. Et ça vient d'une histoire qu'il faut raconter à tous les élèves. C'est l'histoire du chevalier de la barre. Est-ce que vous connaissez cette histoire ?
Non.
Alors, le chevalier de la barre, il a 19 ans. Une nuit, en 1765, dans une tempête qui a lieu dans la ville d'Abbeville, un crucifix tombe sur le pont. Et les autorités municipales et ecclésiastiques lancent une enquête, savoir si c'est pas quelqu'un qui aurait fait tomber le crucifix. On ne trouve personne, on trouve quatre jeunes qui, quelques jours avant, après une soirée bien arrosée, auraient été vomir et peut-être faire plus devant un crucifix dans un cimetière et qui ne se seraient pas dévoilés devant une procession. Donc on cherche à les interpeller, trois s'enfuient et un décide d'accepter d'être arrêté parce qu'il dit « je n'ai rien fait, je vais faire valoir mes droits devant les juges ». Il est condamné à mort. Et avant d'être condamné à mort, il est condamné à la torture. On lui brise les os, un par un, pour le faire avouer quelque chose qu'il n'a pas fait. On lui coupe la tête. On met sur son corps, avant de le brûler, avec une épée, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Et on brûle son corps. Et là, le pays se révolte. Les Français, qui sont 99% catholiques, dans leur majorité, n'acceptent plus que l'on puisse punir un jeune homme, comme cela, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, pour soi-disant punir un blasphème qu'il n'a en réalité pas fait. Et donc, au début de la Révolution française, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on proclame la liberté d'opinion, y compris en matière religieuse, et dès 1791, dans le Code pénal, on abolit le délit de blasphème. Et le choc provoqué par ce martyr du jeune homme de 19 ans, le chevalier de la Barre, continue de provoquer une émotion nationale des générations après. 40 ans après sa décapitation, le grand juriste de la Révolution dit « Les Français tremblent encore du martyr imposé au chevalier de la Barre ». Eh bien ça explique. Et ça, il faut le raconter à tous vos camarades. Cette histoire-là, il faut la raconter, je la raconte dans mon livre. C'est pour ça qu'en France, on a depuis ce jour-là décidé, depuis la Révolution française, que la liberté de critiquer la religion était absolue. Qu'on ne doit pas être exécuté, décapité, pour critiquer, pour même un peu diffamer, une idée qui est l'idée de Dieu. On a le droit de le faire, on a le droit. Et ce droit a été proclamé après le choc créé par le martyr du jeune chevalier de la Barre.
Et donc, que répondriez-vous à quelqu'un qui dirait que la laïcité à l'école, c'est le catéchisme de l'État ?
Eh bien, si c'est le catéchisme de l'État, c'est que c'est mal enseigné. Moi, je vous dis que c'est le droit de croire ou de ne pas croire, et qu'il faut l'enseigner. Vous voyez, il faut déjà enseigner les étapes. Par exemple, il faut enseigner quelque chose que les élèves ne savent pas toujours, que le mariage civil en droit français a lieu avant... On ne peut pas se marier religieusement avant d'avoir un mariage civil. Il y a plein de vos camarades qui ne savent pas ça. On ne leur a pas enseigné à l'école. Vous voyez, la laïcité, ce n'est pas un catéchisme, c'est un enseignement pratique, historique, de droit. Il n'y a pas de catéchisme dedans. Si, il est bien enseigné.
D'accord. Donc aujourd'hui, la laïcité dans les établissements interdit le port de signes religieux ostensibles depuis 2004. Malgré cela, nous pouvons observer des élèves portant une croix. Cependant, nous ne voyons aucun élève portant le voile. Certaines personnes utilisent le terme d'islamophobie. Pensez-vous que ce terme est approprié ?
D'abord, si on voit leur croix, ils sont en violation de la loi. Les signes sont autorisés s'ils sont discrets, c'est-à-dire s'ils peuvent être portés, je vais dire, sous une chemise sans que cela se voit. Et si la loi a été adoptée, c'est pas contre le voile, c'est parce que, à l'époque, les jeunes filles pouvaient porter le voile, mais des groupes de garçons s'étaient attaqués aux filles qui ne le portaient pas, quand ils ressentaient qu'elles étaient musulmanes, en disant, ils allaient dans les cours de récréation, parfois dans les classes, regarde, ta sœur porte le voile, toi tu ne le portes pas, comme tu as le droit de le porter, tu as fait le choix de ne pas le porter, donc on va te faire comprendre qu'il faut que tu le portes, par tous les moyens, par des pressions, par des violences, etc. C'est pas facile de réagir par rapport à ça. Si vous interpellez les jeunes garçons, vous les emmenez au conseil de discipline, et que même s'ils n'obtempèrent pas, s'ils continuent à faire pression, on les expulse de l'école. Et si leurs parents font un procès, et qu'il faut faire témoigner des jeunes de 13 ou 14 ans, ou de votre âge devant un tribunal contre un camarade, vous savez bien que c'est très difficile. Donc, en fait, la loi est une loi de protection contre les pressions. C'est une loi anti-pression, c'est pas une loi anti-voile. Les jeunes filles voilées n'avaient rien fait, la plupart, c'est pas elles qui faisaient pression. Aujourd'hui, elles ont des options, elles peuvent aller dans des écoles privées sous contrat, qui en France, étant financées par l'État, ne sont pas très coûteuses. Voilà, c'est une situation très difficile qu'il fallait résoudre. Il y avait une situation de forte pression, et donc voilà quelle a été la réaction du législateur. C'est une réaction qui a amené la paix dans les cours de récréation, dans les écoles, alors qu'il y avait des pressions inacceptables, illégales, qui s'exerçaient.
Certaines personnes affirment que la laïcité est un concept poussiéreux, qui n'est plus adapté à nos sociétés modernes, ou qu'existent différentes cultures. Qu'en dites-vous ?
Mais il ne s'agit pas de culture, il s'agit de foi. Donc c'est totalement pas poussiéreux, c'est totalement moderne, parce qu'il y a très peu de pays au monde où on respecte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le croyant à égalité du non-croyant. Je vois pas en quoi c'est poussiéreux. Donnez-moi un autre pays où il n'y a pas des conflits sur le statut de la religion, il y en a partout, c'est normal. Il y a des conflits, quand il y a des conflits, on va devant le juge qui tranche les conflits.
D'accord. Et bien, pour finir, nous voulions savoir pourquoi vous vous êtes intéressé à cette notion qui est la laïcité et que représente-t-elle pour vous ?
Eh bien, je m'y suis intéressé un peu parce que le président Chirac m'a demandé de siéger à la commission Stasi, qui est celle qui a proposé notamment l'interdiction des signes ostensibles dans l'établissement scolaire, parce que j'avais travaillé pour le gouvernement, j'avais fait un rapport sur la politique d'immigration et d'insanité qui avait été assez consensuel. Donc j'ai appris beaucoup de choses en siégeant à cette commission. Après, j'ai commencé à enseigner le statut de la religion dans différents pays, dans un cours que je fais à Yale, l'université américaine, depuis 2010. Et puis, après les assassinats de Charlie Hebdo et des supermarchés cachers, je suis président d'une association, que je vous invite à aller regarder son site, Bibliothèque sans frontières. On a fait des vidéos avec les lycéens, en interviewant des lycéens sur la laïcité. Mmh. Et ces vidéos ont été bien reçues. J'ai été invité à en parler devant des professeurs chargés de former les autres professeurs à la laïcité. Ils m'ont dit, on n'a pas de bon matériel. Et quand, pour préparer les professeurs à vous faire cours, à vous, lycéens et lycéennes. Et quand, après l'assassinat de Paty, on a annulé le débat avec vous, que des profs devaient avoir avec vous à la rentrée de la Toussaint, je me suis dit, je sais pourquoi ils n'ont pas fait ce débat, c'est parce que les profs n'avaient pas les moyens de bien faire le débat. Donc moi, j'ai voulu faire ce livre pour que vous, lycéens et lycéennes, vous puissiez avoir un outil où, je dirais, en une heure de lecture, vous avez tout compris, et c'est clair, et vous pouvez expliquer la laïcité à vos parents, à votre famille, à vos voisins, et que les profs aussi puissent l'enseigner. C'est ça que j'ai voulu faire, et je trouve que c'est un... Je compare, puisque j'enseigne ce cours en comparaison, je trouve qu'on a un magnifique modèle juridique et que simplement, on le connaît pas bien, on l'ignore. On vit avec des slogans souvent. Il suffit de bien lire les textes et on peut vous apprendre à lire des textes de droit. Ça devrait, l'école devrait vous apprendre ça. Et vous verriez et vous trouveriez, comme moi, je pense, que la laïcité, c'est vraiment formidable.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Veil d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur la laïcité. Au revoir et restez sur BAC FM 106.1.